Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons dans cette émission Madame Sifa Ba, qui est la journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo au Nord Kivu. Elle est aussi membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Butembo. Bonjour Madame Sifa Bahati. Madame Sifa Bahati, elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Patient Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de la radio de la paix, très content de vous rejoindre aujourd'hui.
Et Fabien Mongouza, il est membre de la société civile, il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. Bonjour monsieur Fabien Mongouza.
Bonjour cher Guy et bonjour également à tous les auditeurs qui sont très nombreux à travers le monde qui suivent la radio Okapi.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Sifa Bahati, journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo Nord Kivu, et les membres de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Butembo. Patient Ligodi, journaliste, et il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Et Fabien Mungunza, membre de la société civile, et il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. Nous allons émettre un petit commentaire au sujet de la visite annoncée du pape en RDC. Comme vous le savez, la RDC va accueillir le pape François mardi 31 janvier prochain. La dernière visite d'un pape sur le sol congolais date de 1985. Patient Ligodi, l'Église catholique intervient souvent dans la résolution de beaucoup de conflits à travers le monde par les canaux, notamment de Saint-Egidio. On se rappelle le travail que cette structure avait accompli en Colombie entre les rebelles des FARC et les gouvernements colombiens. Et avec cette visite du pape François en RDC, Saint-Egidio ne peut-il pas être mis à profit dans la résolution de la crise entre le Rwanda et la RDC? Et on rappelle qu'il y a une forte communauté catholique en RDC comme au Rwanda, Patient Ligodi.
Ah, il faut dire que la diplomatie vaticane a toujours fonctionné. D'ailleurs, le Vatican a toujours été à peu près présent, l'Église catholique présente, et que ce soit en ce qui concerne la politique, que ce soit en ce qui concerne la gestion on va dire de la médiation dans beaucoup de crises. Il se trouve malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, les types de crises vont déterminer également les types d'intervenants ou de médiateurs. La crise actuelle qu'il y a entre la RDC et le Rwanda, c'est une crise au niveau international. La communauté internationale a commencé à croire et pense et que ça peut se gérer au niveau de la sous-région à travers la conférence CIRGEL, la conférence pour les États de l'Afrique centrale, de Grand Lac, donc, et puis vous avez également la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Et que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, il y a comme une sorte de consensus pour dire que cette crise, eu égard à l'implication de différentes nations, de différents pays, de différentes puissances sous-régionales, ce serait beaucoup plus intéressant que ce soit plutôt des leviers sous-régionaux qui soient actionnés par le processus du Luanda ou encore le processus de Nairobi. Et ce qui fait en sorte que l'appui, si il doit arriver, ce sera un appui à ces deux processus-là. Comme d'ailleurs c'est le cas, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de n'importe quelle autre entité internationale, on converge plus vers un soutien à ces deux mécanismes, le mécanisme de Luanda et le mécanisme de Nairobi, pour faire avancer le processus de paix et arriver à mettre les deux pays ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une feuille de route qui existe, une feuille de route qui a été initiée et signée à Luanda entre la RDC et le Rwanda pour améliorer les rapports. Donc il y a plutôt un appui qui doit être apporté à ces mécanismes-là, à l'application de cette feuille de route qui a mis en place, on va dire, les choses à faire, l'agenda, le chronogramme par rapport à ça. Et donc je ne vois pas aujourd'hui concrètement le développement d'une autre initiative à côté qui va reprendre à zéro. À l'international, quand on discute avec aussi les diplomates, que ce soit aussi avec ceux de l'Église catholique, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout l'apport, c'est d'arriver à faire en sorte que la feuille de route de Luanda puisse être respectée et que tous ceux qui ont signé le communiqué de Luanda arrivent à respecter. Je ne vois pas une autre initiative être développée à côté.
Merci. Madame Sifa Abad, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonjour.
Bonjour, Guy, et bonjour aux co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio Soleil émettant de Butembo au Nord Kivu. Vous êtes également membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Butembo. C'est vrai que le pape ne va plus arriver dans cette province comme cela a été initialement prévu, mais à votre avis, que peuvent attendre de cette visite les habitants de Butembo en particulier, ainsi que ceux du Nord Kivu en général, cette province qui fait face, n'est-ce pas, aux défis sécuritaires?
Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, il faut souligner que le report du voyage du pape François à juillet 2022 était une déception pour les fidèles qui s'étaient déjà mobilisés pour l'accueillir chaleureusement. Je peux citer l'exemple des entrepreneurs qui avaient déjà imprimé des t-shirts, des chapeaux avec l'effigie du pape. Bon, on espère que pour cette visite annoncée, ils vont pouvoir récupérer leurs capitaux. Au sujet des attentes, les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo attendent du pape François un message d'espoir au regard de tout ce qui se passe ici suite au cycle infernal des violences armées causées par les groupes armés locaux et étrangers qui se caractérisent notamment par les pillages, les viols, les viols des femmes, les déplacements des populations, sans oublier la crise sanitaire liée aux récentes épidémies. Je peux citer la maladie à virus Ebola qui a fait plus de 2000 morts aujourd'hui. Des centaines d'enfants sont restés orphelins. Mais pour être clair, nombreux sont ceux qui veulent voir le pape François condamner publiquement les soutiens du Rwanda au M23 accusés de plusieurs violations des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo ces jours-ci. Et il faut parler de l'Église directement comme victime des affres de la guerre. Je peux vous citer la récente attaque des ADF au niveau de Maboya qui a coûté la vie à une sœur religieuse, la sœur Sylvie. Et sans oublier aussi des prêtres et des Mbaoué Bunyuka à lever aujourd'hui l'Église catholique. Mais je ne sais pas dire clairement s'ils sont encore à vie. Donc, les gens veulent voir les papes condamner tout ce qui se passe ici et apporter un message d'espoir.
Merci, les gens veulent voir, les habitants, n'est-ce pas, des Boutembo, disons qu'ils veulent voir les papes condamner ces violences des groupes armés. Monsieur Fabien Mongouza, le pape, en plus d'être une autorité religieuse importante, il a le statut d'un chef d'État et il a beaucoup d'influence, n'est-ce pas, sur la plupart des gouvernements du monde. La RDC ne peut-elle pas utiliser cette visite pour demander au pape d'user de son influence à l'endroit, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque fois que le dossier RDC serait traité dans cette instance? Pourquoi pas convaincre les grandes puissances, n'est-ce pas, à se pencher sur le rapport des experts des Nations Unies, rapport qui confirme la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du M23 sur le sol congolais?
Oui, merci, cher Guy. Moi, je pense que la visite du pape est un moment important pour notre pays, étant donné le poids moral dont dispose le pape à travers le monde entier par le biais de l'Église catholique. Et je pense que toutes les opportunités doivent être mises à profit pour que nous puissions essayer de sortir de cette situation dramatique à l'est du pays, pour que tous les moyens soient mis à profit pour ramener les Rwandais à la raison, pour qu'ils retirent ces troupes dont la présence au Congo est avérée, pour qu'ils retirent ces troupes et enfin que cette situation de guerre s'arrête. Moi, je pense qu'il s'agit d'une opportunité qui permet de mettre en lumière non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi les nombreux problèmes qui sont ceux de ce pays.
Et que disent les habitants de Mbandaka? Qu'est-ce qu'ils attendent, n'est-ce pas, de cette visite du pape François?
Oui, les habitants de Mbandaka se félicitent de la venue du pape, même s'il ne va pas passer à Mbandaka. Vous savez que Mbandaka regorge d'une communauté catholique importante, et donc elle est très très contente de la venue du pape. C'est une reconnaissance du poids de l'Église de la République démocratique du Congo sur le plan international, sur le plan mondial. Et donc, elle attend et dans la prière pour que cette visite se déroule dans les bonnes conditions et que le pape puisse bien retourner à Rome comme il va venir.
Pascal Godi, ce n'est pas la première fois que la RDC reçoit, n'est-ce pas, le pape. Hein? On se rappelle que vers les années 85, le pape Jean-Paul II était ici au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. Mais on s'est rendu compte que après la visite du pape était égal à avant la visite du pape parce que il n'y avait pas d'impact et qu'on pouvait, n'est-ce pas, palper, qu'on pouvait quantifier.
Oui, mais c'est possible parce que il faut pas se leurrer, hein. Donc il y a trois niveaux où on peut sentir l'impact de la visite du pape. Il faut pas oublier que un, il y a cette crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Deux, on est en période préélectorale, donc l'année 2023, ça sera une année des élections. Et trois, il ne faut pas oublier que la RDC régorge quand même quelques millions de fidèles catholiques. Évidemment, tu vas avoir un poids de cette visite par rapport à l'évolution de la situation, que ce soit politique, que ce soit sécuritaire en RDC. Maintenant, il faut juste toute proportion gardée, arriver à mettre à l'esprit que l'impact de cette visite ne peut pas aller au-delà des aspects diplomatiques, au-delà des aspects de la communication. On ne peut pas aller plus loin que les gains politiques ou les gains diplomatiques ou encore la pression que ça peut mettre à l'État congolais pour prendre en compte les questions sociales. Il ne faut pas espérer, outre mesure, qu'il y aura des miracles qui se feraient juste parce qu'il y a une visite. Mais il y aura des gains qui peuvent avoir, qui peuvent être récoltés sur le plan de la visibilité du pays, sur le plan de la visibilisation des problèmes du pays à l'international et sur le plan également de la pression qui serait mise sur l'État congolais, sur la prise en compte des questions sociales et des questions de sécurité pendant cette année 2023. Mais il ne va pas falloir attendre en particulier des miracles. Mais on ne va pas non plus nier qu'il y a des aspects où il peut y avoir, on va dire, un impact sur les trois choses que je viens de citer.
Merci. On prend une petite pause avec Kari Bouyangou de Tchalamouana et on revient juste après.
Let's go, let's go, let's go.
Karibu Yangu, comme pour souhaiter la bienvenue au pape François. Une chanson d'Elisabeth Tchalamwana, morte le 10 décembre dernier à Kinshasa à l'âge de 64 ans. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Un tir d'obus lancé à partir du Rwanda et visant un avion des chasses congolais a provoqué une panique mardi 24 janvier à Goma, au nord Kivu. Dans un bref communiqué, le gouvernement rwandais a affirmé avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion Sukhoi venant de la RDC et qui a violé son espace. De son côté, Kinshasa a rejeté toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Entre-temps, au nord Kivu toujours, la situation est restée toujours tendue à Kichanga et dans les environs après la prise jeudi de cette cité par les rebelles du M23. Kichanga est situé à plus ou moins 70 km au sud-ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Masisi. Patient Ligodi, journaliste, vous êtes directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant des radios France Internationale RFI en RDC. Et pourquoi vous avez opté pour ces sujets, Patient Ligodi?
Mais je crois que c'est l'actualité de la semaine, hein. C'est l'actualité brûlante de la semaine sur le plan que ça soit politique, parce qu'il s'agit de politique intérieure également, l'RDC, étant donné que les conséquences, on peut le ressentir ici, que ce soit sur le plan sécuritaire, puisque c'est le plus grand, l'un des plus grands enjeux sécuritaires du pays actuellement. Et troisièmement, parce que sur le plan diplomatique, c'est l'essentiel des efforts fournis par les différents, en tout cas les autorités de la RDC, pour essayer d'endiguer cette situation. Et il y a des conséquences en termes notamment de la suite à donner au processus de Luanda ou encore au processus de Nairobi. Il y a aussi des conséquences en termes de déplacement des populations, des conséquences en termes d'amélioration de rapports entre Kinshasa et Kigali, des conséquences aussi sur notamment des entités comme la MONUSCO qui intervient dans le cadre de la sécurité de la RDC, sur le plan également, on va dire, de la pertinence de la présence de militaires de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc pour nous, c'était essentiel de pouvoir plutôt braquer toute la lumière de l'actualité autour de cette question.
Et à la une d'actualité.cd de mardi 25 janvier, vous avez titré RDC-Rwanda, la tension est montée d'un cran, le processus diplomatique au point mort. Et patient, donc vous pensez qu'avec cet incident, l'approche diplomatique qui est en cours n'évolue plus, elle stagne?
Il faut dire que il y a deux processus, comme on l'a dit, Nairobi qui rassemble le groupe armé congolais, et vous avez Nairobi, plutôt Luanda, qui rassemble la RDC et ainsi que le Rwanda sous l'égide notamment de la médiation angolaise. Il y a une feuille de route qui avait été adoptée et cette feuille de route demandait notamment qu'on arrive à un désengagement du M23. Il se trouve que depuis cette histoire, cet incident avec l'avion le Sukhoi de l'armée congolaise, il y a comme une sorte d'exaspération de la crise. Vous avez une avancée du M23 vers Kichanga, dans les territoires de Masisi, dans la province du Nord Kivu, et vous avez également tous les dispositifs diplomatiques qui avaient été mis en branle, Qatar, qui avait été notamment présenté. Il devait y avoir une rencontre entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda, avec la participation notamment du Burundi. Ces processus-là n'a pas pu aboutir, cette réunion-là n'a pas eu lieu parce que justement il y a eu ces regains de violence, et aujourd'hui toute la communauté internationale travaille de sorte à relancer le processus de Luanda pour que l'on puisse avancer. Et là, ça ne va pas être facile parce que c'est la première fois dans l'histoire de cette crise qu'on ait un incident dans ce sens où le Rwanda revendique le fait d'avoir tiré dans les buts d'abattre même cet avion de l'armée congolaise. Il y aura d'ailleurs en début du mois prochain la visite de la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, qui va passer par Luanda et par Kinshasa pour arriver justement à calmer plus ou moins cette tension et à relancer le processus de Luanda pour que l'on puisse avoir une baisse de tension entre le Rwanda et la RDC, sachant que une baisse de tension entre le Rwanda et la RDC va avoir comme effet directement la gestion du cas M23. On ne peut pas gérer à l'heure actuelle le cas M23 en dissociant la participation ou l'influence du Rwanda dans cette crise.
Merci Madame Sifa Bahati. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio Soleil émettant des Butembo Nord Kivu. Vous êtes également membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias ICOFEM Butembo. Comment on peut analyser, n'est-ce pas, ces événements qui semblent se produire au même moment? Les rebelles du M23 lancent des offensives de grande envergure sur les positions des FARDC mardi très tôt le matin. Offensives qui leur ont permis, n'est-ce pas, d'occuper un certain nombre de localités, notamment la cité de Kichanga. Quelques heures plus tard, c'est le Rwanda qui lance un obus sur un avion de guerre de la RDC. Simple coïncidence ou c'était prémédité, Madame Sifa Bahati?
Merci beaucoup, Guy Maté. Comme vous venez de l'évoquer, ça prouve en suffisance que c'était un acte prémédité et qui confirme la thèse de la République démocratique du Congo qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Mais lorsque vous essayez de suivre les communications, que ce soit du côté gouvernement congolais ou du côté gouvernement rwandais, vous allez vous rendre compte que chacun essaie de justifier sa position. Par exemple, le ministre rwandais des Affaires étrangères, lorsqu'il évoque ce qu'il qualifie de violence à l'égard des populations d'expression rwandaise, on sait que le Rwanda veut dire pourquoi il est en train de s'attaquer à la République, ou il est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Je ne veux pas entrer dans les débats communautaires, mais à terme simple, je peux vous dire que qu'on sait réellement que c'était un acte prémédité. Mais lorsqu'ils essaient de médiatiser, donc de transformer la guerre qui devrait se sentir sur le terrain, voir les résultats qui essaient d'améliorer tant soit peu les conditions sociales des populations, je parle ici des déplacés, vous vous rendez compte que tout est resté dans les médias. Resté dans les médias, c'est-à-dire on attaque une partie et la partie va se limiter à communiquer pour autant penser à des stratégies ou soit à des actions à mener sur le terrain pour essayer de faire avancer les choses. Je vais vous dire ici que ce soit du côté du gouvernement congolais ou du côté du gouvernement rwandais, on essaie d'oublier et fait la situation humanitaire qui est devenue très précaire. Vous savez, cette guerre a poussé plus de 60 000 personnes dans une situation de déplacés. Il n'évoque même pas comment vivent ces déplacés. Il se limite juste à surtout du côté rwandais lorsqu'ils évoquent la question des personnes d'expression rwandophone. Ils oublient que ce soit les habitants qui n'ont pas une expression rwandophone, que ce soit les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo d'expression rwandophone, ils subissent tous les mêmes sorts dans les sites de déplacés. Ils y vivent sans manger, ils n'ont pas d'eau à boire et tout. Il y a des enfants qui ne partent pas à l'école et ça devient un peu compliqué lorsque tout semble se limiter à l'aspect politique, sans penser à l'aspect social des paisibles citoyens.
Merci Madame Sifa Bahati. Fabien Mungunza, vous êtes membre de la société civile, président du cadre de concertation provincial de la société civile de l'Équateur. En ayant procédé par ces tirs d'obus, à votre avis, le Rwanda envoie quel message à la RDC et à la communauté des États d'Afrique de l'Est?
Oui, merci beaucoup Guy. Ça c'est de la distraction. Il est établi par tout le monde, la communauté internationale, que la RDC est le pays agressé et le Rwanda est le pays agresseur, d'autant plus que des militaires rwandais sont présents en République démocratique du Congo. si un pays avait à se plaindre de la violation de son espace territorial, c'est plutôt la RDC qui doit le faire et pas le Rwanda. Ce que le Rwanda fait, c'est simplement de la distraction. Et donc, ces tirs d'obus rentrent effectivement dans la stratégie d'agression que le Rwanda a entamée contre la République démocratique du Congo avec la résurgence du M23. Cet acte-là n'est pas à dissocier de la guerre qui est en train de faire rage à l'est du pays. Et donc, nous ne devons pas nous leurrer. La réalité, c'est celle-là. Le Rwanda veut participer au plan ou être l'acteur majeur de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous avons donc, nous, Congolais, intérêt à nous serrer les coudes, à ne pas nous laisser distraire par les Rwandais pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays.
Merci, merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons donc écouter Eto, chanson contenue dans les nouvel albums de Koffi Olomide, Légende, et on revient après.
Fils de David, Eto,
Samuel Eto, son mégé.
Fils de Christine Mondebi.
Dans cette émission, regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la visite annoncée du pape François en RDC. Nous avons également analysé la crise entre la RDC et le Rwanda. Participe à cette émission, Madame Sifa Bahati, elle est journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo, Nord Kivu. Elle est membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Butembo. Patient Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne Actualité.cd et aussi correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Et Fabien Mongouza, membre de la société civile, il est président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur. La situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Beni au Nord Kivu depuis un certain moment inquiète, alors qu'on avait observé une certaine accalmie dans cette partie du pays depuis le début des opérations conjointes FRDC-UPDF. Des tueries de masse semblent avoir repris dans ces territoires. Mercredi dernier, une bombe a explosé dans la commune de Moulekera à Beni. Selon les premières informations recueillies des sources locales, il s'agit de l'explosion d'un engin explosif improvisé. L'explosion a fait 18 blessés, parmi lesquels 13 femmes et 5 hommes qui sont actuellement pris en charge dans 3 structures sanitaires de Béni. Ceci intervient 10 jours après l'explosion d'une bombe artisanale dimanche 15 janvier dernier dans la cité de Kassindi, où 15 personnes avaient trouvé la mort dans l'église de la 8e CEPAC de la commune de Kassindi-Lubiriga. Dans la nuit du dimanche 22 janvier vers 22h à Mukungwe, au moins 26 personnes ont été tuées par les rebelles des EDF dans une localité de la chefferie des Bachou dans les territoires de Beni toujours. Si Fabati, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Oui, mais merci beaucoup pour la question. J'ai opté pour ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité dans la région. Donc à Beni, Butembo, Lubero, ça, même à Goma, à Ituri, ça fait débat. Et ce qu'il faut noter au sujet des engins explosifs à Beni, Butembo, en fait, c'est une stratégie de l'ennemi qui consiste à faire croire que malgré les déroulements des opérations qui se déroulent à profondeur, l'ennemi veut faire croire aux gens qu'il existe encore avec sa même capacité de nuisance, alors que s'il faut vraiment analyser objectivement ce qui se passe sur le terrain, l'ennemi est coincé dans les profondeurs. Il faut souligner aussi que depuis le lancement des opérations conjointes de FARDC et UPDF, il y a eu des changements au niveau tactique, voire la façon même de communiquer sur le déroulement des opérations. Je peux vous citer l'exemple depuis le lancement des opérations sous GIA. Donc, la mutualisation des forces entre les FARDC et UPDF, il y a eu changement sur les plans communicationnels. Avant le lancement de ces opérations, on pouvait voir les FARDC lorsqu'ils capturaient un ADF. Ils donnaient toutes les informations sur cet ADF. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont changé de tactique. Et on suppose que cette nouvelle forme de communiquer de nos militaires FARDC est venue avec la mutualisation des forces qui a permis d'ailleurs le bon déroulement des opérations. Je peux vous citer par exemple la libération de certains otages et le nombre de véhicules, les sentiers qui a sensiblement diminué sur l'axe Beni Kassindi. Et aussi la destruction de plusieurs bastions des rebelles, les ADF. Et alors, l'ennemi qui ne veut pas s'avouer vaincu, il a adopté un nouveau mode opératoire, c'est de s'attaquer aux grandes agglomérations à l'aide des engins explosifs. Il veut créer la terreur au sein de la population. Mais je ne dis pas qu'il faut crier victoire, dire que non, les opérations Shuja, c'est vraiment une réussite. Non, je ne dis pas ça. Je vais souligner si l'ennemi arrive à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie qui consiste à déposer des explosifs dans des lieux publics, c'est une question qui doit interpeller tout le monde et ça nécessite un engagement communautaire. Mais ça doit interpeller beaucoup plus les agents des services de sécurité. Parce que même si l'ennemi qui a des bandades, comme les FARDC ont l'habitude de le dire, ça ne signifie pas que dans les grandes agglomérations, il faut croiser les bras.
Merci, merci Madame Sifa Bahati, patient Ligodi. Et Madame Sifa Bahati explique ces regains de violence par le fait que, à travers cela, les EDF voudraient faire passer un message pour dire que, en dépit des opérations UPDF et FARDC, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Est-ce que ces regains de violence qui est le fait, n'est-ce pas, des EDF, ne seraient pas en train d'accréditer la thèse selon laquelle ces opérations UPDF-FARDC n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à réduire la capacité de nuisance des EDF et elles ont plutôt permis la délocalisation de la violence sur les territoires, sur une autre partie, n'est-ce pas, du territoire de Beni?
Il faut dire que il y a des tendances que nous sommes en train d'observer. Hein, cette tendance, avant, on avait
les ADF qui étaient essentiellement dans les territoires des Béni. Ensuite, on a vu qu'ils se sont élargis et qu'ils ont élargi également leur champ avec des actions, que ce soit à Boutembo, que ce soit également dans d'autres territoires et d'autres provinces d'ailleurs, dans la province de l'Ituri dont on parle. Quand on lit, par exemple, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, il y a d'autres actions qui ont été prévues par les ADF, notamment à Kigali, notamment à Goma, notamment à plusieurs autres endroits, mais toujours en utilisant des engins explosifs improvisés, comme c'est le cas. Ça semble être, on va dire, la nouvelle façon de faire de ces groupes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose à retenir, c'est le fait que quand on exerce une force de frappe et de feu, comme c'est le cas, c'est tout à fait évident que l'on puisse avoir la manifestation de la nuisance de ces groupes ADF à travers d'autres possibilités d'expression, comme maintenant on a ces explosions qui se manifestent. D'un côté, vous avez la puissance des feux, mais de l'autre, il va, je pense, eu égard à ce que les experts disent, il va falloir développer un système qui permettra d'améliorer la qualité de renseignement, d'améliorer le contrôle au niveau des frontières, d'améliorer également le rapport entre les civils et les militaires, de sorte que l'information ou le renseignement sortent de la communauté, servent à l'armée et aux services de sécurité pour lutter contre ces groupes. Ça, c'est une lecture à faire. L'autre lecture à faire, c'est également quels sont les liens qui existent entre nos différents services, les services d'intelligence, les services des douanes, les services de renseignement, le renseignement militaire, le renseignement civil, pour que l'on puisse ensemble, puisque là il s'agit maintenant du terrorisme, arriver à pouvoir déterminer où se trouve la menace et comment combattre cette menace. Une autre lecture à faire également de cette situation, c'est le fait aujourd'hui de se dire qu'il ne suffit pas simplement d'exercer une force de frappe militaire. Il va falloir travailler également sur les causes profondes qui font en sorte que l'on puisse toujours avoir ces ADF qui soient actifs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand on sait que ces ADF-là, aujourd'hui, on connaissait plus ou moins les routes, les chemins au travers desquels ils empruntaient, où est-ce qu'ils allaient pour recruter, où est-ce qu'ils s'entraînent et qu'on sort, je pense qu'avec la mise en commun des efforts de la République, des services de la République, on devait arriver à pouvoir gérer cette situation. Parce qu'on sait, par exemple, que les ADF, une fois recrutés, passent par Boutembo essentiellement, et de Boutembo, ils passent par Mwalika pour notamment tout ce qui concerne les entraînements et avant d'être déployés dans la région. Ça, c'est documenté. Il suffit maintenant aux services de sécurité et de renseignement de pouvoir maintenant travailler là-dessus. Autre chose, on sait aussi que les ADF recrutent dans des prisons, c'est-à-dire quand ils attaquent les prisons, comme c'était le cas à Boutembo, comme c'était avant le cas à Beni, ils recrutent des forces et reprennent les détenus et en font des otages et en font également des combattants. Donc il va falloir aussi renforcer les services au niveau des complexes carcéraux pour que l'on puisse bien gérer cette situation. Et la dernière chose que je dirais par rapport à cette situation, on se rappelle qu'au mois de juin déjà, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, disait qu'il fallait terminer avec cette affaire du M23, cette crise du M23, pour que l'essentiel des efforts, que ce soit de la MONUSCO, que ce soit de l'armée, que ce soit des services de sécurité, aille vers la lutte contre les ADF, contre la CODECO, contre les autres. Donc il va falloir rapidement refermer la parenthèse M23 pour s'attaquer aux vrais problèmes qui causent beaucoup de morts, comme c'est le cas avec les ADF.
Fabien Mungunza, avec ces modes opératoires qui consistent à poser des engins explosifs dans des endroits où il y a une forte présence des gens, qu'est-ce que la population pourrait adopter comme attitude? Et puis, est-ce qu'on peut établir un lien entre ces regains de violence et la visite annoncée du pape? Vous savez, les groupes armés, souvent ils profitent de certains événements pour faire passer les messages.
Oui, merci encore une fois Guy. Je salue les avancées dans la lutte contre ces ADF tels que relatés par Madame Essifa, mais je considère que toute vie humaine en République démocratique du Congo comme ailleurs compte. Un mort de plus est toujours un mort de trop. Nous avons tous l'obligation de nous mobiliser. Nous, population, d'abord, nous devons nous montrer ouvertes vis-à-vis des services de sécurité et de renseignement pour leur donner les informations appropriées en vue de participer à la lutte contre cette nébuleuse qui est d'origine étrangère. mais qui se nourrit de la faiblesse de notre État. Parce que les EDF sont d'origine ougandaise. Mais lorsque vous regardez, les dégâts qui sont causés par cette nébuleuse sont constatés surtout en République démocratique du Congo, à cause de la faiblesse de notre État. Je voudrais dire que les avancées telles que relatées sont certaines, mais il nous appartient de prendre cette situation-là au sérieux, d'autant plus que des connexions se seraient établies entre les EDF et des mouvements terroristes internationaux comme l'État islamique, dont on connaît la capacité de nuisance. Nous avons l'obligation ensemble de renforcer notre État, particulièrement les services de renseignement et de sécurité, et lutter contre l'endoctrinement pour limiter les dégâts en donnant l'espoir aux jeunes. Et je pense que la COMICO peut être un partenaire important dans cette logique, d'autant plus que ces mouvements se réclament d'obédience islamiste. Et donc, le moment choisi peut être lié à la venue du pape, comme nous l'avons dit. Parce que maintenant, le pays est exposé au regard de la communauté internationale. Tout ce qui est au Congo maintenant est regardé par la communauté internationale en termes de visibilité, pour se faire une santé, pour se faire signaler. Évidemment, les terroristes peuvent choisir ce moment ici pour poser un acte aussi dramatique comme ils l'ont fait au niveau de cette église qui a entraîné beaucoup de morts. Et donc, je crois que la situation, c'est vrai, est en train de s'améliorer, mais nous avons l'obligation de rester éveillés, de ne pas dormir sur nos lauriers pour éviter que les changements des tactiques observés par au niveau de ces EDF-là ne nous causent encore plus de dégâts que ceux que nous avons connus. Voilà la petite analyse que nous avons à faire, cher Guy, de cette situation-là.
Vous ne pensez pas, monsieur Fabien Mungunza, vous ne pensez pas, comme vient de le proposer Patient Ligodi, que compte tenu de l'évolution de cette situation sur le terrain, que les deux forces puissent, n'est-ce pas, repenser la stratégie qu'elles ont toujours mise en place pour combattre, n'est-ce pas, ces groupes, les EDF, hein, repenser la stratégie?
Oui, c'est extrêmement important. On ne peut pas combattre cette situation-là qui nous endeuille uniquement par les armes. Il faut l'aborder sur le plan holistique, explorer toutes les voies possibles. J'ai entendu, il a parlé de l'implication des gens de la douane, de l'implication de tout le monde. J'ai parlé de la COMICO tout à l'heure, parce que ces gens-là se réclament d'obédience islamique. Il s'agit là aussi d'un terreau dans lequel ces terroristes puissent des éléments pour pouvoir grossir leur rang. Et donc c'est important également de travailler à ce niveau-là pour que la COMICO puisse donner l'enseignement qu'il faut, pas l'enseignement à tendance extrémiste qui verserait beaucoup de jeunes au niveau de cette entité-là dans les bras de ces terroristes. Et donc c'est extrêmement important. Pour chaque action, on a l'obligation de s'asseoir et d'évaluer et de projeter des actions nouvelles. Je suis totalement d'accord, cher Guy Maté.
Merci, on va prendre une petite pause en écoutant cette chanson d'espoir No Woman, No Cry de Bob Marley et on revient tout de suite après.
Remember
mais nos croyants, nos femmes ne pleurent pas. Bob Marley, à travers ses classiques, estime que l'espoir est encore permis. Habitants de Beni, habitants du Nord Kivu, habitants de l'Ituri, un jour la paix sera restaurée dans ces territoires et dans toute la partie est de la RDC. On rappelle que c'est le 11 mai 1981 que Bob Marley, le roi du reggae, nous avait quitté. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Sifa Bahati, journaliste à la radio Soleil et mettant des Butembo au Nord Kivu, et les membres de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Butembo. Patien Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Et Fabien Mungunza, il est membre de la société civile et il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a décidé le dimanche 22 janvier de prolonger de 25 jours l'opération de révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle qui devrait se clôturer le 23 janvier. Ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs avaient démarré le 24 décembre 2022 dans les provinces suivantes: Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tuapa. L'objectif de cette période de récupération, selon le communiqué publié par la CENI, est de permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Monsieur Fabien Mungunza, pourquoi vous avez opté pour ces sujets sous la prolongation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs?
Oui, cher Guy, les élections sont vraiment attendues au niveau de notre province et par nous-mêmes comme société civile pour nous permettre de renouveler la classe dirigeante qui, dans sa grande majorité, n'a pas répondu aux attentes. Voilà pourquoi ce moment-là est un moment extrêmement important pour la vie de la nation en ce qui nous concerne. D'autant plus que l'opération d'identification et enrôlement conditionne la participation de chaque électeur dans la suite du processus électoral, qui permet également de déterminer le niveau de représentation des entités, des institutions provinciales, nationales. Elle est donc une étape clé pour le peuple congolais, dont les élections sont un exercice de la souveraineté qui lui est reconnue par la Constitution. Mais les différentes contraintes rencontrées par l'opération n'ont pas permis à la majorité des électeurs potentiels de pouvoir s'enrôler. Voilà pourquoi nous avions crié à tue-tête, demandé à tous ceux qui pouvaient nous attendre que cette opération soit prolongée pour donner l'occasion à tous ceux qui veulent bien se faire enrôler de le faire. Et c'est ainsi que nous avons vraiment salué cette décision de la CENI qui tombe bien à propos.
Et à votre avis, qu'est-ce que la CENI ferait en 25 jours qu'elle n'a pas pu faire en 30 jours?
Oui, c'est ça la difficulté, cher Guy. En principe, il faut que la CENI fasse une évaluation des fonds, une évaluation qui doit être participative pour que tous les maux, toutes les contraintes qui ont été relevées pendant cette période ici puissent trouver des solutions. Parce que s'il n'y a pas de solution trouvée à ces contraintes-là, il y a fort à parier que la prolongation ne servira à rien. Il faut donc trouver une solution au problème des machines qui tombent très régulièrement en panne. Il faut trouver également une solution aux performances des opérateurs de saisie qui sont moins performants. Trouver des solutions aux accusations de corruption. Et donc tous ces maux-là doivent être résolus pour que les 25 jours puissent apporter quelque chose de nouveau, répondre, n'est-ce pas, aux objectifs déjà fixés par la CENI en ce qui concerne le nombre d'enrôlés attendus par, n'est-ce pas, chaque circonscription.
Madame Sifa Bahati, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle selon laquelle la CENI avait prolongé les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie ouest du pays?
Bon, en fait, moi, personnellement, la prolongation de la durée d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest du pays dénote d'une mauvaise planification des étapes du processus électoral. Ça n'engage que moi. Parce que je me dis que la CENI allait d'abord se rassurer que tout fonctionne bien avant de procéder au lancement officiel de ces processus, au lieu de venir constater comme tout le monde qu'il y avait des soucis. Les autres peuvent appeler ça des petits soucis techniques, mais moi personnellement, je pèse mes mots et je dis que ce sont des gros soucis techniques et ça suscite des doutes au sujet même du respect du calendrier électoral. Ça signifie que cette prolongation de la première phase d'enregistrement, d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'Ouest doit préparer les Congolais psychologiquement sur les éventuelles modifications qui peuvent survenir tout au long de ces processus électoraux.
Merci. Patient Ligodi, certains experts de la société civile redoutent un glissement du calendrier électoral avec cette prolongation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Est-ce que vous comprenez leurs craintes?
Les craintes sont bien justifiées, mais maintenant, est-ce qu'il faut comprendre les raisons qui ont poussé ou qui ont été avancées par la CENI pour allonger plus ou moins la période d'identification d'enrôlement des électeurs? La première raison, c'est que évidemment qu'il y a eu des problèmes, de sérieux problèmes, même à Kinshasa. Et si à Kinshasa c'est comme ça, à combien plus forte raison en province? La CENI explique cette difficulté notamment par le fait qu'il n'y a pas eu une opération pilote qui aurait été organisée, qui permettrait de dégager des problèmes, qui seraient arrangés avant d'étendre les opérations au niveau national. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la CENI expliquait également que le fait de mettre, d'organiser l'enrôlement dans une période d'un mois, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour organiser en plusieurs mois. Et l'autre chose, c'est aussi parce que l'on veut respecter les délais constitutionnels. Donc ça, ce sont des données qui ont été, quand on discute avec la Commission électorale nationale indépendante, ce sont les réponses qui donnent. Et donc malheureusement ou heureusement, ils ont donc l'obligation de pouvoir étendre la période d'enrôlement. Mais quand on discute avec d'autres experts, ce qu'ils disent, c'est que le grand danger serait que l'ère opérationnelle 3, c'est-à-dire la partie ouest du pays, puisse connaître également un grand retard. Si le retard de l'ère opérationnelle 1 et l'ère opérationnelle 2 peuvent donner un peu plus d'expérience ou d'intelligence à permettre à la CENI d'améliorer les choses, l'on pourrait espérer que pour l'ère opérationnelle 3, ça serait beaucoup plus facile. Mais ça également, il faut pas oublier que l'ère opérationnelle 3, c'est là où il y a les plus grands problèmes d'insécurité, les plus grands problèmes de déplacement des populations. Il y a encore des zones qui sont encore occupées par le M23, par d'autres mouvements.
Madame Sifabati, que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que les failles décelées dans ces opérations, dans cette première zone opérationnelle, et que ces failles constituent, n'est-ce pas, la... Allô, Madame Sifa, apparemment, elle n'est pas là. Monsieur Fabien Mungunza, je vous repose la même question. Que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que les failles décelées dans ces opérations, dans cette première ère opérationnelle, constitue, n'est-ce pas, la préfiguration des élections de 2023?
Oui, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, mais nous avons encore le temps pour corriger. Mais la difficulté qui nous pousse à comprendre difficilement ces problèmes, c'est que nous sommes déjà au quatrième cycle. On aurait compris si c'était en 2006 où nous faisions notre apprentissage démocratique et électoral. Mais trois cycles et un quatrième, les choses ne fonctionnent pas mieux que le cycle passé. Nous trouvons quand même quelque part, au niveau de l'équipe actuelle de la CENI, il y a un certain amateurisme. Il y a un certain manque de professionnalisme.
Merci, Patient Ligodi. Nous allons finir avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à la CENI pour que ces failles que l'on a, n'est-ce pas, observées pendant ces opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs ne puissent pas se manifester les jours des élections, ce qui pourrait impacter négativement ces élections de décembre 2023?
C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, cher Guy. Je ne suis que journaliste et observateur de la scène politique, mais ce que je peux plutôt rassembler, c'est l'éclairage apporté par les experts de ce secteur. Aussi, deuxième chose, c'est que la CENI devra maintenant, je pense qu'elle a déjà identifié les vrais problèmes au niveau de l'identification et l'enrôlement des électeurs et va pouvoir donner des solutions à ce problème. Mais il faut que le problème soit bien identifié. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de la part de la CENI et de la part des gouvernants pour que l'on arrive à résoudre ces problèmes-là. Mais il faut dissocier les problèmes d'enrôlement, les problèmes de la cartographie électorale, les problème du toilettage du fichier électoral et les opérations de vote à proprement parler. Et donc, je crois que il va falloir rapidement terminer d'ici au mois de mars, tel que recommandent les calendriers de la CENI, c'est les opérations liées à l'enrôlement des électeurs et être sérieux dans l'audit du fichier électoral pour extirper les doublons et tout ce qui a été mal fait et avoir un fichier plus ou moins sain. Et pour que l'on puisse envisager la tenue des élections dans de meilleures conditions. Mais là encore, ça demande une implication et des organisateurs, c'est-à-dire de la Commission électorale nationale indépendante, et du pouvoir public, c'est-à-dire l'État qui doit en même temps donner l'argent, qui doit en même temps organiser la sécurité autour des opérations électorales, et aussi de la société civile qui doit faire la sensibilisation, attirer l'attention des gouvernants et de l'organisateur, mais aussi des partis politiques qui sont, on va dire, partie prenante à ces processus.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Sifa Bahati, merci. Patient Ligodi, merci. Et Fabien Mungunza, merci. Merci aussi à Pierre Diassinoa et Charlie Louyeye qui étaient à la technique avec la participation d'Hervé Voka, de Christian Lomombe, Didier Dadi. À la réalisation, Leslie Wallace, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougéry. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Belotti de Djengaka Kisangani Espérant dans Viva la Musica, sorti en 1981. Et on se retrouve le samedi prochain.
Nasengi bolingo mama zika gosali mokizi yeye Beyo sina lulio Chakola mokano na ya mosu ya yeye Kimwana mama yeye Mamo sema otita Yeye Beloti yaka Oh 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 Ilanga mama La sila na moloka Yeye Beloti yaka
Ni kolo na yoy, pelo tiye. Let's go.